Hello et bienvenue sur le podcast Tige, où je te partage mes réflexions sur la société et son impact sur nous. Tu y trouveras également des interviews avec des femmes inspirantes qui osent prendre leur place dans ce monde. Retrouve-moi sur Instagram @tigebyamel et en attendant, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tige. Aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder un sujet. Waouh! Jamais j'aurais pensé que je parlerais de ça un jour. Mais voilà, nous y est, si vous avez la ref. Donc on va parler de la prière. Et plus précisément du pouvoir de la prière et de ce que j'ai ressenti, enfin ce que je ressens en fait et ce que je conscientise depuis que j'ai commencé à prier régulièrement. Le but de cet épisode, c'est de vous inciter à prier d'une certaine manière, peu importe quel type de prière vous priez. Peu importe le type de religion ou de spiritualité que vous avez, la prière c'est dans toutes les spiritualités. Et vraiment je pense que s'il y a un problème dans nos sociétés où on sépare la spiritualité du concret, du réel, c'est parce qu'en fait la prière, elle n'est plus ritualisée. Alors qu'en fait dans les spiritualités, religions, la prière, ce sont des rituels, ce sont des actes, c'est du passage à l'action. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup dans la spiritualité New Age, on a séparé le passage à l'action de la spiritualité. Sauf qu'en fait, la spiritualité passe par nos actes. En fait, si tu veux être aligné à ton âme, il faut passer à l'action. Tu ne peux pas dire que tu es aligné à ton cœur, si les actions derrière ne suivent pas. C'est de la dissonance cognitive, quoi. Et comme chez l'état colon, ils vivent beaucoup en dissonance cognitive, vu qu'ils sont nés à New York et qu'ils pensent qu'ils viennent de Jérusalem. Ben, nous aussi, les êtres humains, on vit en dissonance cognitive parce qu'on ne vit pas ne vivent pas en fonction de leur âme. Ils vivent en fonction de leur mental et des illusions de la société. Et l'âme, elle donne constamment des messages. Dieu, il donne constamment des messages. Dieu, il est en nous, hein, pour être clair. Enfin, il est partout et en nous également, quoi. On bouge avec une partie divine à l'intérieur de nous. Et eh bien, notre âme, constamment, elle communique avec nous pour qu'on passe à l'action. Et ce qui est bien dans la prière, en fait, c'est que ça imite ça. C'est une analogie. Comment vous dire? C'est how you do one thing is how you do everything. J'arrête pas de le répéter. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Donc, si tu ne sais pas passer à l'action par rapport au divin, c'est-à-dire la prière, si tu ne sais pas te relier via des actes ritualisés à Dieu, alors comment vas-tu enseigner à ton corps à passer à l'action en fonction de son âme, en fonction de ce que l'âme lui dit de faire? Parce qu'en fait, l'âme, elle... Parfois, elle va en contra... enfin, tout le temps, elle est en contradiction avec la société. En tout cas, peu importe ce que ça veut dire la société ou le système pour vous. L'âme, elle nous dit ce qui est bon pour nous. Et parfois, c'est en opposition avec ce que la société nous dit qui est bon pour nous. Par exemple, si vous avez 20 ans et que vous avez plein de copines qui se marient à 20 ans, et vous vous dites « Ah, mais moi aussi, je veux me marier à 20 ans », sauf que ton âme, elle veut partir voyager. Elle ne veut pas se marier maintenant. Et tu vis dans la souffrance parce que tu vis en dissonance cognitive. Parce que ton âme ne veut pas se marier, c'est pas dans son chemin. Mais toi, tu regardes à l'extérieur de toi. Bon, avant de commencer à parler de la prière et des bienfaits et de ce que j'ai ressenti, j'ai envie de faire une petite pub personnel. Donc j'ai ouvert des créneaux pour des accompagnements. Donc j'en prends deux par mois et ce sont des accompagnements de 2 mois. Donc pour vous aider à mieux gérer vos émotions, mieux gérer votre mental, mieux le comprendre, vous aligner à votre âme et vraiment faire les choses qui sont bonnes pour vous et mettre en place les bonnes habitudes qui vont vous suivre pour le long terme. Voilà, donc c'est des accompagnements de 2 mois qui sont renouvelables. Voilà, donc si vous avez envie d'être accompagné par moi, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous en fait dans le lien qui sera dans les infos. Ou sinon, vous pouvez aussi rejoindre le programme Tige qui va ouvrir mi-avril et qui commencera à peu près dans la deuxième semaine de mai, début mai quoi. Vraiment, plus j'avance dans mon chemin spirituel et personnel, plus je me rends compte que en fait, la connexion au divin, la gestion du mental et de l'émotionnel sont très très liées. La gestion de son corps, comment on prend soin de son corps, c'est lié à Dieu. Et c'est vraiment en fait, j'ai l'impression que la relation au divin, à la spiritualité, c'est la fondation et ça va orienter comment tu gères ton mental, comment tu gères ton émotionnel, comment tu gères ton physique. En fait, si vraiment ta foi en Dieu, tu ne voudras pas te mettre dans des situations de souffrance, en fait, qui vont t'apporter de la souffrance ou des choses qui vont te faire du mal. Par exemple, quelque chose de basique, si vraiment tu comprends que ton corps, c'est un temple, c'est une responsabilité que Dieu t'a donnée, tu vas pas aller boire tous les soirs, tous les week-ends ou aller fumer constamment. Enfin, après, je dis pas que les personnes qui fument, elles ne croient pas en Dieu. Franchement, chacun a ses challenges dans la vie. On a tous des challenges, mais on a les capacités également de gérer ces challenges-là. Donc, pour toutes les personnes qui fument et qui boivent, faites-vous accompagner, mais genre, no shame. Moi, je fume pas, je bois pas, mais c'est quelque chose qui est facile pour moi. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles moi j'ai plus de mal, notamment le sucre. Voilà. Bon, avant de vous parler des changements que j'ai ressentis via la prière, j'ai quand même envie de vous parler du type de prière que je fais, même si vous vous en doutez, et pourquoi je me suis mise à prier. Donc en fait, ça fait 1 an maintenant que je prie régulièrement, et parce que l'année dernière, j'ai ressenti le besoin vraiment de me détacher des autorités. Déjà par rapport à tous les passages de frontières avec la Palestine, où ça a été archi-challengeant, mais vraiment ça a été une initiation spirituelle, quoi. De te dire, ouais, ben je vais croire en Dieu dans le fait que je vais être autorisée à rentrer en Palestine. Malgré les interrogatoires que je vais passer, et ne pas en fait croire que c'est eux qui décident en fait, que ce sont des êtres humains qui vont décider, c'est Dieu qui décide. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai senti, pour d'autres raisons également, que j'étais encore, que mon mental, il appartenait encore trop au gouvernement et à leurs lois et à l'autorité en fait. C'est également à cause de l'école, de la programmation que j'ai eue quand j'étais dans l'éducation nationale, enfin élève dans l'éducation nationale. Donc j'avais besoin de me libérer. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut me libérer de ça. C'est si je n'attache pas mon cœur et mon subconscient à Dieu, je vais rester attachée au gouvernement, je vais avoir peur des autorités extérieures, du regard des autres. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que Dieu, il n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour lui. Il s'en fiche qu'on prie, en fait. C'est nous, êtres humains, qui avons besoin de lui. C'est devenu évident pour moi à ce moment-là. En fait, pour me sauver de moi-même, j'avais besoin de me relier à Dieu. Et comme je vous le disais dans un podcast sur mon coming out religieux, C'est la religion musulmane qui a fait sens dans mon cœur. Donc voilà, je pense que c'est super important de se relier à une spiritualité religion qui fait sens dans notre cœur. Voilà, c'est parce que si le cœur ne croit pas, enfin, je veux dire, il y a pas d'utilité vu que c'est le cœur qui gère tout. Comme je vous disais, l'imam Al-Razali ou en Ayurveda, en fait, tout passe par le cœur parce que c'est à partir du cœur que les énergies vont dans les membres. Et donc, c'est si le cœur est empoisonné, si le cœur appartient à d'autres autorités, eh bien, en fait, nos membres vont bouger en fonction de ces autorités et non pas de l'âme. Et l'âme vit dans le cœur. Mais même si l'âme communique avec nous, parfois, elle n'est pas aussi puissante que les conditionnements qu'on a. Donc voilà, dans la tradition musulmane, tu pries 5 fois par jour. Mais bon, l'année dernière, je me suis dit, waouh, fallait que j'apprenne, que je réinitialise, que je comprenne la prière, tout ça. Et je me suis dit, ok, je vais commencer avec une prière par jour. Voilà. J'ai commencé avec une prière par jour pendant quelques mois. J'avais commencé au Ramadan dernier. J'ai commencé avec une prière par jour et graduellement, j'ai augmenté. Après, je suis allée en Palestine pendant 3 mois, donc ça a un peu freiné ma routine. Donc, il y a des fois où genre, je restais 3 jours sans prier. Mais bon, je reprenais tout le temps. Et ensuite, graduellement, vers la fin, comme j'étais un peu plus stable et que j'étais à Jérusalem, j'avais réussi à augmenter jusqu'à 3 prières par jour. Voilà. Le matin, le midi et celle du coucher de soleil. Donc, il y en a quatre, cinq en tout. Et donc, je suis arrivée à 3 en octobre. Donc j'ai commencé à prier en avril et en octobre je suis arrivée à 4 prières. Et quand je suis allée en Tunisie et que c'était l'hiver, je me suis dit que c'était la bonne opportunité pour rajouter la cinquième parce qu'en fait en hiver la prière du soir elle est tôt et moi je suis une couche tôt et je me suis dit que ce serait bien de mettre en place l'habitude de la prier dès maintenant. Donc, je suis arrivée à 5 en novembre 2023. Et depuis, ben, j'ai continué. Et voilà. Passons désormais à ce que j'ai observé moi-même de ma pratique depuis un an. Et je suis sûre que je vais continuer à observer des choses à l'intérieur de moi. En fait, moi, comme j'ai le temps dans ma vie, que Dieu m'a donné le privilège du temps, j'ai archi le temps de m'observer. Et les choses, elles sont très très lentes, mais à la fois j'ai l'impression de changer très rapidement. C'est assez bizarre comme sensation, mais c'est ce que je vis depuis plusieurs années. C'est comme avec le voyage, j'ai l'impression que ça va vite, mais en même temps que les changements dans ma vie sont lents. La première chose, évidemment, c'est que quand tu prends l'habitude d'aller voir Dieu plusieurs fois par jour, pour lui demander telle ou telle chose ou pour le remercier de telle ou telle chose, au bout d'un moment, t'arrêtes de demander au gouvernement, t'arrêtes d'attendre quoi que ce soit du gouvernement, t'arrêtes d'avoir peur du gouvernement et des limitations illusoires qu'il nous met dans la tête. Il faut savoir que moi, dans mes expériences de voyage, je me suis retrouvée parfois à être avec des personnes aisés ou des personnes qui étaient dans la politique. Et c'était fascinant comme en fait elles étaient détachées des lois en fait. C'est-à-dire qu'elles se disaient pas, ah mais c'est écrit dans la loi, c'est pas possible. C'était même pas une contrainte en fait. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir le faire. Alors c'était pas des personnes religieuses, mais c'était un mindset. Et donc moi, bon, je croyais pas le gouvernement, donc voilà. Mais je me suis dit que c'était important de vous le dire. Si vous avez peur, par exemple, pendant le Covid, il y a plein de gens qui disaient, mais on n'a pas le droit de voyager, mais comment t'as fait pour voyager? Mais en fait, c'était possible. C'est juste que ces personnes, elles pensaient que dans la loi ou sur BFM, ils disaient que c'était pas possible de voyager, donc personne ne pouvait voyager. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Il n'y a pas de règles. Tu peux toujours contourner les règles. Et les seules règles valides et éternelles, éternelles, sont celles de Dieu. Les règles, les lois du gouvernement, celles-ci, elles changent. Et tout ce qui est changeant, tu ne peux pas baser ta vie dessus. Donc quand tu commences à intégrer qu'il n'y a qu'à Dieu que tu peux demander, eh bien en fait, t'arrêtes de demander quoi que ce soit en fait, que ce soit au gouvernement, genre un job, tes allocations chômage, ou de demander en fait aux autres. Par exemple, il y a une membre du programme Tige qui veut upgrader dans son job et elle attendait en fait cette promotion de sa manager qui va peut-être ne jamais venir et au final, à force de prier et de suivre les recommandations du programme Tige, et ben petit à petit, elle s'est séparée de son job. Pas au niveau du contrat, hein, mais c'est-à-dire qu'elle n'attend plus cette promotion de cette manager-là. Et qu'elle ne donne plus sa vie pour son boulot. Elle a un objectif, avoir plus de compétences et plus de... Enfin, avoir cette promotion, mais elle est OK pour que cette promotion vienne d'ailleurs et possiblement qu'elle vienne d'un autre job. Du coup, t'arrêtes de demander à qui que ce soit. T'arrêtes d'attendre de ton partenaire qui gère tes émotions ou qui te donne le bonheur. T'arrêtes de demander à l'argent de te rendre heureuse. T'es heureuse que t'en aies ou que t'en aies pas. Enfin, heureuse, t'as la paix mentale, t'as la paix intérieure surtout. T'arrêtes de demander à ton projet ou à ton travail de t'amener des émotions. En fait, tes émotions, elles sont en lien avec Dieu et ton bien-être dans le moment présent. Elles ne sont plus en lien avec des autorités extérieures. Comme je vous le disais également, quand on prie, c'est un rituel, c'est-à-dire c'est un set de mouvements, en tout cas dans la prière islamique. Et donc, quand tu habitues, quand tu conditionnes ton corps à bouger pour Dieu, que t'aies la foi à ce moment-là ou pas, parce que la foi ça varie, c'est pas linéaire, eh bien en fait tu vas faire la même chose avec tes actions, l'idée par ton âme. C'est-à-dire qu'en fait si ton âme elle te dit voilà, j'aimerais bien que tu te lances dans le podcast ou en tant que thérapeute, eh bien en fait tu vas poser des actions en fonction de ça. Tu vas pas rester dans je suis thérapeute juste dans le mental. Tu vas poser des actions, c'est-à-dire que, je sais pas moi, tu vas ouvrir un compte Instagram, tu vas te former, tu vas partager ce que tu fais, tu vas en parler avec les gens. En fait, ça va. Tu vas commencer à poser des actes concrets parce que tu as conditionné ton corps à poser des actes concrets en fonction de Dieu et donc ton âme. Dieu, c'est ton âme en fait, c'est ta mission, c'est ce que tu viens faire, c'est comment tu viens servir les autres. Un truc aussi très intéressant, c'est que quand tu vas prier plusieurs fois par jour, eh ben, tu commences à te demander, mais en fait, qui est Dieu quoi? Qui est Dieu? Et tu te rends compte que, en fait, tu avais internalisé que Dieu, enfin tes autorités, elles étaient beaucoup plus limitées. Que le pouvoir de Dieu. Ah ouais, Dieu, il est le tout-puissant. Ah ouais, Dieu, c'est le plus riche, c'est le plus abondant, c'est le plus juste. Alors qu'en fait, je pensais que c'était le gouvernement le plus juste, je pensais que c'était mes parents les plus justes, alors qu'en fait, le gouvernement, il me donne pas ci, il me donne pas ça, il me protège pas. Il me fait croire que l'économie, elle est limitée. Mes parents, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont donné leur amour conditionnellement parfois. Enfin, tu te rends compte que en fait, tu as internalisé que l'image de Dieu, c'était les autorités. Sauf qu'en fait, quand tu commences à te relier à Dieu, tu commences à créer une toute nouvelle relation avec Dieu Et tu commences à vraiment lui attribuer ses qualités à lui. Enfin, lui, il te les donne déjà, en tout cas dans la tradition islamique, via ses 99 noms. Et du coup, c'est toi-même qui intègre qui est Dieu en fonction de ce que Dieu t'a dit qu'il était, quoi. Et donc, en fait, ça débloque plein de choses. Parce que si, par exemple, on t'a fait croire que tu devrais avoir 15 sur 20 ou la moyenne pour avoir un cadeau, eh ben Dieu, en fait, il te donne inconditionnellement si tu lui demandes, et t'as pas besoin d'avoir 15 sur 20 pour être bien, en fait, et pour mériter quoi que ce soit. Et ça, en fait, ça change tout. Déjà, ça te permet de d'avoir des relations plus saines et plus matures avec tes parents, et de comprendre qu'en fait, tout est accessible pour toi. Tout est possible pour toi et pour ton âme. Depuis que j'ai mis en place la prière, et surtout depuis les cinq prières, je suis beaucoup plus disciplinée. Je suis beaucoup moins dans l'illusion du mental, je suis beaucoup moins dans la procrastination, et je passe beaucoup plus à l'action qu'avant. Et à l'action focus sur mes objectifs. Parce qu'en fait, le mouvement d'aller prier quand c'est l'heure de prier, c'est exactement le même mouvement, la même énergie que d'aller travailler pour ton projet de cœur. Ça va te demander en fait la même énergie, la même intention. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller prier pour Dieu, mais quand tu vas aller t'inscrire à une formation ou aller poster sur Instagram, et ben en fait, tu vas te dire, ok, je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour les gens qui ont besoin que je les serve. Peu importe si j'ai peur, peu importe si je crois pas en ma vision là maintenant, je vais quand même passer à l'action, peu importe comment je me sens maintenant. Et comme tu as l'habitude de prier cinq fois par jour, et ben en fait, tu vas régulariser ça. Ça va devenir beaucoup plus dans la constance de passer à l'action par rapport à ce que ton âme veut pour toi. Parce que par exemple, devenir thérapeute, c'est possiblement un projet de ton âme. Quand tu fais les choses pour Dieu, tu les fais également pour les autres en fait. Parce que Dieu, il t'a pas envoyé pour vivre toute seule sur cette planète. Et l'individualisme, franchement, ça fait du mal à notre passage à l'action. Parce que si on est trop centré sur nous-mêmes, on n'a pas l'impression de servir. Et donc, on est bloqué sur nos problématiques. Sauf que quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que tu fais, moi parfois j'écoute des podcasteurs ou peu importe, je vais chez des thérapeutes, je me dis mais heureusement qu'ils existent. Genre par exemple, il y a énormément d'hypnothérapeutes, mais genre il y a une hypnothérapeute avec laquelle tu vas vraiment matcher. Genre. Même s'il y a d'autres hypnothérapeutes qui peuvent être beaucoup plus compétentes qu'elle, ben en fait, c'est elle qui te comprend à un niveau, à un niveau âme à âme, quoi. Un truc beaucoup plus puissant. C'est pas juste les compétences, parce qu'il y a énormément d'hypnothérapeutes compétents. Mais en fait, c'est avec elle que tu vas travailler, parce qu'elle, elle te comprend. Et personne d'autre ne pourra te comprendre, ou en tout cas tu les as pas trouvés. Quand tu vas prier pour Dieu qui est le Tout-Puissant alors que toi tu crois que tu vas jamais réussir, eh bien en fait ça va aussi te conditionner à te dire ok, je vais poster sur Instagram, je vais sortir mon podcast, même si j'y crois pas pour le moment, même si j'ai aucune évidence actuelle que ça va marcher, j'ai pas de preuves, j'ai pas de signes, mais je vais quand même y aller, peu importe ce que mon mental veut me faire croire. Également, quand tu structures ta journée en fonction des cinq prières, c'est pas du tout la même chose que de structurer ta journée en fonction de ton travail. Parce que dans notre société capitaliste, notre vie est structurée en fonction du travail. Notre digestion, notre routine de nutrition, d'alimentation, elle est basée sur notre journée du travail. Donc inconsciemment, ta vie, c'est ton travail. Tu viens là pour servir l'État et payer tes impôts. C'est ça le message subtil. Sauf qu'en fait, quand tu te lèves et que tu commences à organiser ta vie en fonction de Dieu, et c'est quelque chose en fait qu'on met en place dans le programme Tige dès le début, pour sortir du système et pour suivre son cœur, il faut changer la dynamique de sa journée. Et du coup, ça passe par le fait de se relier à Dieu plusieurs fois. D'ailleurs, une des membres du programme TIGE, Virginie, n'est pas musulmane, mais bon, elle a quand même décidé d'intégrer le groupe. Et elle, en fait, elle a décidé de prier. Je crois qu'elle est arrivée à deux ou trois fois, trois prières par jour, mais elle fait des prières comme elle le souhaite, en fait. Donc, à sa manière-là. Et elle expérimente également des changements à l'intérieur d'elle. Les teachings en islam, ce sont des teachings universels. Ils sont pour tous. Moi, en ce moment, j'étudie la thérapie essénienne, enfin la spiritualité essénienne. C'est exactement la même chose que les Védas et que l'islam. C'est juste des langages différents. Voilà, c'est juste des rites différents. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller quelque part et ne pas juste piocher partout, quoi. Tu peux, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que voilà, parce que j'ai choisi l'islam dans mon cœur, que je vais arrêter la méditation au bol tibétain. Absolument pas. Mais je veux dire, c'est bien quand même d'avoir une fondation qui est en lien avec une spiritualité. C'est mon avis. Moi, je pense comme ça. Et du coup, je me suis perdue un peu. Désolée, c'est la vata en moi. C'est que quand, en fait, t'es appelé cinq fois à prier, c'est que Dieu, il te montre que ton mental, il n'est pas reliable. Il est trop incertain. Et qu'il a constamment besoin d'être rappelé que Dieu est le plus grand. Que c'est Dieu le tout abondant, le tout puissant, le juste, l'amour inconditionnel qui gère ce monde et que c'est à lui que tu dois penser quand tu fais des choses, quand tu fais des actes. Parce que si tu penses que en fait tu vas te lancer sur Instagram en tant que thérapeute mais qu'il n'y a pas assez de place, qu'il y a trop de thérapeutes, là tu pars, tu crois les histoires que ton mental te fait croire, que la société te fait croire. Tu crois pas ce que Dieu en fait te dit. Si Dieu t'a envoyé pour être thérapeute et aider les gens, je veux dire, qui te peut, quoi? Qui te peut? Le mental, il est très faible et très programmable. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'accessibilité aux informations. Et donc, on a constamment besoin d'occuper notre mental avec Dieu. Parce que si ton mental n'est pas occupé avec Dieu, et donc quand je dis Dieu, c'est aussi ta mission, parce que en fait, entre les prières, tu dois aussi être occupé par ta mission, par ce qui t'apporte de la joie, par des personnes qui t'encouragent. C'est aussi ça, hein, c'est une extension, Dieu. Parce que, en fait, quand tu vis avec Dieu constamment, c'est aussi le fait de passer à l'acte, comme je vous disais, donc de choisir des personnes qui sont bonnes pour vous, de faire des tâches qui vous apportent de la joie, que vous aimez faire, qui sont en lien avec votre chemin, même si c'est des tâches, voilà, relou, eh ben tu les fais quand même parce que tu sais que ça sert un purpose, un but. Je veux dire, quand tu as des enfants, a priori, quand ils pleurent, c'est pas tout le temps rose, quoi. Mais du coup, il y a un but beaucoup plus profond. It gives meaning. En gros, si tu ne rappelles pas à ton mental l'existence de Dieu, ce sont les diables, et donc les diables, la société, les gouvernements, le regard des autres, tout ça, qui vont en fait s'occuper de ton mental. Voilà. En fait, comme je vous disais au début, je veux dire, si vous voulez vivre une vie alignée, il faut tenir la corde de Dieu. Enfin, je veux dire, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de lui parce que on est dangereux pour nous-mêmes. Et d'autant plus dans notre société très mentale. On a été depuis l'enfance habitués à nous concentrer sur l'aspect mental et non pas sur notre corps et sur notre cœur. Un autre truc super important, c'est que quand tu te relies à Dieu constamment, tu te relies à la vérité de Dieu et également à ta vérité à toi-même. Donc plusieurs fois par jour, tu vas te relier à Dieu et à sa vérité. Et donc, c'est-à-dire, ce n'est plus la vérité que la société te fait croire. Ce n'est plus la vérité que toi, avec ton petit mental d'être humain, penses croire de la vie. Il y a des gens, ils sortent des vérités comme ça, Et même parfois, moi, je peux le faire, hein. Mais en fait, c'est pas la vérité. Même, je l'ai tellement de fois expérimenté en voyage. Je crois un truc et je suis constamment humbled. Genre, j'ai totalement faux. Je suis complètement à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, je ne me crois même plus, que ce soit envers moi-même, de ce que je crois de moi ou ce que je crois de la vie. Je ne donne plus de crédit à mon mental. Mais pour ça, il faut se relier à une autre vérité, celle de Dieu et celle de notre âme. Et c'est super important de créer une connexion quotidienne avec Dieu. Sinon, tu es dans l'illusion. Et l'illusion, parfois, elle fait mal. C'est comme, exemple très typique, tu es dans une relation avec un homme et il te montre les red flags. Il te montre que il va mal te traiter. Et pourtant, tu es tellement dans l'émotionnel, ton cœur, il est tellement en dépendance affective, ton corps est en dépendance affective due à des traumas, à l'enfance, ce genre de choses, qu'en fait, tu ne te lis même plus à ce qui est bon pour toi. Et tu crois en fait ton mental qui se raconte des histoires. Non, mais quand même, il a fait ça, mais quand même, je me raconte cette histoire sur lui. Donc, nous, les femmes, on a trop tendance à faire ça, à se focus sur le potentiel de la personne, alors que concrètement, la personne, elle nous montre qui elle est. Un truc aussi vraiment super révolutionnaire, c'est que plus tu pries, donc là, ça fait 1 an et je suis sûre que ça va être de plus en plus, surtout quand tu pries avec conscience, hein. Voilà, c'est super important. Quand tu pries avec conscience, c'est-à-dire que voilà, tu le fais pas parce que tu as peur de Dieu, tu le fais parce que tu as besoin de Dieu. Et ben en fait, ton âme, c'est comme si elle va reprendre possession de ton corps et que les illusions, les autorités que tu avais dans ton cœur, elles vont commencer à partir petit à petit. Et là, tu ressens un truc qui est fascinant, c'est que il y a tu sens les choses, tu sens quand il y a un truc que tu veux vraiment, mais qui n'est pas fait pour toi pour le moment. Tu sens que c'est pas encore le bon timing. Et ça, vraiment, en fait, tu commences à comprendre pourquoi t'en es là maintenant. Pourquoi t'en es pas à ce que la société veut que tu sois, quoi. Par exemple, moi, je me faisais la réflexion, waouh, bah, j'ai 34 ans, mais je suis pas du tout là où la société, elle aimerait que je sois. Et pourtant, je me sens trop bien. C'est trop bizarre. Genre, je sens à l'intérieur de moi, de mon corps, que c'est exactement là où je dois être. Mais quand je pense à ce que une femme de 34 ans devrait être selon la société, c'est-à-dire mariée, peut-être déjà 2 enfants et un job stable, moi, je suis pas du tout dans ça. Mais du coup, ça me fait pas du tout souffrir. Alors que si je n'avais pas conditionné mon corps à Dieu, et bien peut-être que je serais dans la souffrance. Parce que je me dirais que, waouh, je suis archi en retard, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Donc en fait, tu commences à accepter ton timing divin. Et notre timing, il est vraiment très différent de ce que la société veut. Moi, je l'ai bien vu avec les séances d'astrologie védique, parce qu'on a les timings, en fait, dans l'astrologie. Moi, enfin, je suis dans la grande période de Raoult, c'est pas possible que je me pose maintenant. C'est très compliqué. Comment vous voulez-vous que je me marie et que j'ai des enfants alors que j'ai la bougeotte et que je change tous les 6 mois? Enfin, si je me serais mariée à 20 ans, j'aurais divorcé là. Et ça se trouve, j'aurais eu des enfants. Ça se trouve que le mari, enfin, l'ex-mari m'aurait bloqué et que j'aurais pas pu voyager. Voilà, en fait, parfois, on n'a pas quelque chose parce qu'en fait, c'est mieux pour nous. Et que c'est mieux de l'avoir plus tard. Voilà, donc ça c'est un truc vraiment que j'ai conscientisé dans mon corps cette fois-ci. Je l'avais déjà mentalisé avec l'astrologie védique. Donc chacun a son timing divin. On n'est pas tous faits pour avoir le job salarié, la voiture, le plan retraite, voilà, la maison, le crédit, tout ça. En fait, on n'est pas tous faits pour ça. Et d'une certaine manière, ça va venir pour certaines personnes tôt, Parce que voilà, c'est leur chemin d'âme. Leur âme, elle est venue expérimenter l'évolution à travers ce canal-là, donc le mariage. Et il y a des gens qui vont, en fait, expérimenter le voyage, comme moi, tôt, parce que ça a été mon chemin d'évolution, et plus tard, le mariage. Il y a des gens qui auront des enfants plus tard, parce que c'est mieux pour eux. En fait, s'il y a un truc qui vous fait souffrir, par exemple, s'il y a des femmes qui ont 45 ans, 50 ans, et qui n'ont pas trouvé encore l'amour, ou voilà, ou qui ont l'impression qu'elles n'auront jamais d'enfants, en fait, c'est une souffrance, et c'est une croyance qui est erronée, et c'est qu'en fait, d'une certaine manière, elles ne sont pas reliées à leur âme. Dieu, il ne veut pas la souffrance. La souffrance, c'est un objectif du diable. C'est que forcément, c'est pas bon pour nous. Et d'une certaine manière, les femmes qui Dieu a décrété qu'elles n'auront pas d'enfants, ces femmes-là, normalement, elles seront en paix avec ça. Limite, elles auront choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc, si tu te sens dans la tristesse de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas être mariée, c'est qu'il y a une croyance derrière qui te cause de la souffrance. Et peut-être que tu n'utilises pas ton temps pour faire des choses que tu devrais faire. Quand je regarde en arrière et que je me dis wow, « Waouh, maintenant, du coup, je veux des enfants », d'ici 2 ans, 3 ans, bon, j'ai pas trouvé le mari encore, mais bon, manifesting, bah, je me dis que je veux pas du tout les mettre dans l'éducation nationale française. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas possible pour moi. Et forcément, je voudrais le meilleur pour mes enfants parce que, bah, du coup, dans mon évolution, bah, je veux le meilleur pour moi. Et ça, si j'avais eu des enfants à 20 ans, bah, je les aurais mis dans l'éducation nationale et j'aurais eu certains problèmes. Et voilà, en fait, en tout cas, pour moi personnellement, hein, donc c'est mon chemin d'évolution. Parfois, je me dis, heureusement que Dieu ne m'a pas donné des enfants parce que ça m'aurait plus bloqué. Voilà. Et vous savez, pour la première fois, je ressens l'envie de transmettre à des enfants. Ça, c'est une envie que je n'ai jamais ressenti avant. Et ça, je sens que c'est mon âme qui me dit, ok, Amel, tu auras des enfants, mais petit à petit, je commence à te mettre l'envie de transmettre à des enfants. Alors qu'avant, ben, j'avais juste envie de vivre pour moi, j'avais envie de créer le max de souvenirs, j'avais pas spécialement envie de transmettre. Mais là, en fait, plus j'avance avec le temps, plus je transmets en fait via mon compte Instagram, voilà, je transmets à d'autres femmes. Et un jour, éventuellement, bah, je transmettrai à des enfants, mais au bon timing. Voilà. Et j'ai confiance en Dieu par rapport à ça. Il y a également la notion de prendre sa place. Ça a été un sujet dans le programme Tige. On en a parlé dans notre séance de vendredi dernier sur le fait de se rendre visible et de prendre sa place. En réalité, en fait, dans la société, on nous a constamment habitués au fait qu'on était remplaçable. Qu'en fait, quelqu'un peut prendre notre poste quand il veut. Genre, on peut te virer. Bon, en France, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, on te fait croire que tu dois en faire des tonnes pour être choisi. Et ensuite, ça se trouve, on peut te faire sauter parce que t'es pas au bon endroit, quoi. Sauf qu'en fait, quand vous priez, et surtout quand vous priez en communauté, donc à la mosquée ou peu importe, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui va prier pour vous. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un d'autre prier pour vous. Vous ne pouvez pas envoyer une autre personne faire le travail de votre âme à votre place. Il ne peut pas y avoir un autre thérapeute qui soit aussi thérapeute à votre manière que vous-même. Ce n'est pas possible. Et donc, tu te rends compte que tu seras en face de Dieu et que c'est à Dieu que tu vas rendre des comptes dans le sens où il t'a envoyé pour faire quelque chose et est-ce que tu auras utilisé tes talents pour faire cette chose et personne en fait ne peut prendre ta place. Et si tu es à un endroit, c'est que c'est Dieu qui a décidé de t'y mettre en fait. Il n'y a personne qui d'extérieur à Dieu qui peut te valider à une certaine position. Tu mérites en fait, si Dieu te l'accorde, c'est que t'es prête pour ça, même si toi dans ton mental tu penses que t'es pas prête, que c'est trop grand. Voilà, en fait, si Dieu il t'y met, c'est que t'es prête. Et ça, il faut en avoir conscience. Si tu es dans une certaine communauté, si tu es avec certaines personnes, c'est que tu mérites d'être avec elles. Et si tu es mise dans une autre communauté et que tu te sens pas bien, c'est qu'il y a des choses à apprendre de ces personnes-là. Le dernier truc super important aussi, c'est vrai que cet épisode, il est un peu long, sorry. Mais bon, comme ça fait 1 an que je prie, et dans 5 ans, l'épisode double. Bref, ce que je veux dire, le dernier truc le plus important, c'est que c'est super important de se relier à des chants sacrés. La prière en islam, elle est faite en arabe. Jamais tu pourras changer, en fait, la langue de la prière. Tu peux pas prier en français, c'est pas possible. Ce qui est différent, en fait, je suivais un cours sur les Esséniens, enfin je suis toujours, et le prof, justement, il disait que ils essaient d'enlever le latin comme langue pour les prêches. Et ils veulent rendre ça dans la langue locale des gens. C'est un truc de dingue. En fait, tu enlèves des mémoires, tu coupes les mémoires. Et en fait, le chant sacré, il te lave des mémoires et il te met les bonnes choses pour te faire avancer sur ton chemin. Il te lave, enfin, la langue sacrée, elle te lave des croyances néfastes que tu as à l'intérieur de toi. Des croyances limitantes qui ne t'aident pas à avancer sur ton chemin. C'est assez magique. Moi, parfois, je me rends compte que je réagis plus de la même manière. Out of nowhere, mais juste parce qu'en fait j'ai développé une pratique de récitation de mantras et ça m'a lavé en fait de croyances subconscientes. Et tu te rends compte aussi que tu commences à doucement à détester des trucs que avant t'aimais beaucoup. C'est que avant en fait tu tolérais et à aimer des choses qui sont vraiment bonnes pour toi, c'est-à-dire que il y a des choses par exemple, moi je vais prendre l'exemple du sucre. Donc j'ai arrêté le sucre, je me suis sevrée du sucre et encore plus pendant le mois de jeûne du Ramadan. Et je me suis rendu compte, parce que ma mère elle a acheté un Paris-Brest, et qu'en fait il n'était pas assez bon. Que genre en fait mon corps rejetait ce truc. Alors qu'avant j'arrêtais pas de manger du chocolat du supermarché quoi. Et que si j'avais mangé le Paris-Brest, je l'aurais trouvé délicieux. Sauf qu'en fait j'ai tellement upgrade mon standard, mes standards, que en fait il m'en faut plus pour que j'aime. J'ai besoin d'encore plus de qualité. Et que la qualité, elle passe aussi via la rareté. Et c'est aussi beaucoup dans la hookup culture, donc d'enchaîner les relations, alors qu'en fait, ce qui est le mieux pour toi, c'est de te recentrer sur toi-même, de te recentrer sur ton âme, sur le chemin de ton âme, et de n'accepter que la qualité. Et la qualité, c'est une personne, un partenaire qui va te soutenir sur ton chemin d'âme. Et du coup, comme vous le voyez, ça passe beaucoup par le corps. C'est pour ça que dans mon programme TIJ, j'insiste beaucoup sur le corps et que j'utilise l'Ayurveda, la prière. C'est parce qu'en fait, tout ce que tu enseignes à ton corps, il l'enseigne à ton subconscient. Le fait que je me sois sevrée du sucre, ça a eu l'impact encore plus profond du fait de n'accepter que la qualité. Si j'accepte de manger tous les chocolats et d'accepter peu importe, tant que j'ai un hit de sucre dans le corps, voilà, j'accepte tout, voilà. Alors qu'en fait, si je rends le sucre plus rare, je vais augmenter mon standard, je vais moins manger de sucre, évidemment, mais je me sentirai toujours bien, en fait, de ne pas avoir du sucre dans le sang parce que je pourrais me focus sur d'autres choses. Et quand je trouverai un sucre à la hauteur, et ben du coup, je serai beaucoup plus satisfaite et il y aura beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de transformation à l'intérieur de moi. Et ce sucre, en fait, je vais le déguster et ça va être un moment de plaisir et je vais pas y être attachée. C'est-à-dire que quand j'aurai fini ce gâteau au chocolat, et ben bye bye, c'est qu'il m'aura apporté tout ce qu'il a à m'apporter et que je peux repartir sur un moment de solitude. Voilà, je parle de sucre, de relations, d'activités, voilà, comme des passions. Vous pouvez avoir une passion pendant 1 an, 2 ans, et ensuite dire bye bye à cette passion parce qu'elle ne vous porte plus et que vous allez évoluer vers d'autres choses de manière saine. En fait, via le chant sacré, via les paroles sacrées, donc que ce soit en sanskrit ou en arabe, ou peu importe votre spiritualité, ça peut même être les chants sacrés d'Amazonie, et bien en fait, ça va te laver des croyances, ça va te laver des choses que ton âme en fait ne veut pas, parce que c'est pas aligné avec elle. C'est-à-dire que par exemple, comme je disais tout à l'heure, t'as 20 ans, t'as envie de te marier parce que toutes tes copines se marient. Si en fait, tu incarnes dans tes cellules, tu exposes tes cellules au chant sacré, eh bien en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi en fait, et tu vas très bien le vivre. Tu vas complètement l'accepter et limite tu vas dire mais ah non mais pas du tout, moi je veux pas du tout me marier, moi je veux aller voyager, je veux apprendre à faire du yoga, à faire de la permaculture, voilà, parce que c'est aligné avec moi, même si ce n'est pas aligné avec les projets du système. Et ça vraiment c'est une réelle libération. Voilà, c'est tout pour cet épisode, ça a été un plaisir de l'enregistrer. Et j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura motivé à prier ou pas, comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram, sur Tige by Amel. Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère que mon expérience de la prière vous aura boosté. Parce que c'est vraiment, en fait, se raccrocher à Dieu, c'est la libération. C'est en fait la soumission à Dieu, c'est la non-soumission à d'autres autorités. Et quand je parle d'autorité, c'est autant le gouvernement et ses lois et ses histoires que le regard des autres, que votre partenaire, que votre job, que votre patron, votre manager, vos parents aussi. C'est une libération en fait totale. Et ça, c'est vraiment la libération ultime. C'est en fait, se raccrocher à Dieu, c'est, on en a besoin. C'est vital, en fait, pour notre âme et pour ce qu'on vient faire. Et c'est là où on trouvera la paix intérieure. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! N'hésite pas à venir me raconter ce que tu as pensé de l'épisode du jour. Pour soutenir le podcast, partage-le à une amie ou tu peux également me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour que plus de monde découvre ces épisodes. Je te dis à très vite.